France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Sur le champ de bataille, vous avez une partie non négligeable des blessés qui meurent dans la première heure. D'hémorragie, de détresse respiratoire. Donc on va cibler ces blessés-là parce que ceux-là, ils sont sauvables.
Lorsqu'on reçoit plusieurs blessés, notre politique, c'est de mettre les deux chirurgiens sur un patient de manière synergique pour une intervention la plus brève et la plus vitale possible.
Alors, le plus grand défi, c'est justement d'avoir à faire des gestes qui ne sont pas de notre spécialité. En France, ce serait des chirurgiens spécialisés qui s'occuperaient de ces blessés. Et ici, il faut qu'on s'occupe de tout.
France Culture est à Bayeux, à l'occasion du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Et Grand Reportage vous emmène sur le terrain, à la rencontre des médecins mobilisés dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Pour lutter contre les groupes terroristes armés, 4500 soldats français sont mobilisés dans la bande sahélo-saharienne. Et parmi eux, 200 personnels médicaux appartenant au service de santé des armées. Cela fait 300 ans que le SSA prend en charge les militaires et la chaîne médicale n'a cessé de s'améliorer pour sauver le plus grand nombre de vies. On se souvient des progrès de la chirurgie pour soigner les gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Plus récemment, l'armée française a tiré les leçons du conflit en Afghanistan en mettant en place un protocole pour secourir plus rapidement les blessés. Aujourd'hui, pour répondre aux besoins de l'opération Barkhane, des postes médicaux sont installés au Tchad, au Niger, au Burkina Faso ou encore au Mali. Au total, 28 équipes médicales sont réparties sur un territoire grand comme l'Europe. Médecins, infirmiers et auxiliaires sanitaires sont à la fois soldats et soignants, indispensables lors des missions sur le terrain pour prendre en charge leurs collègues. Depuis le début de l'année, une vingtaine de soldats français ont été blessés en opération au Sahel. Médecins au combat, embedded avec Barkhane, un grand reportage signé Nathalie Hernandez. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, le général Christian est avec nous à Bayeux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la division milieu à la direction de la médecine des forces. Alors je précise que Christian, c'est votre prénom, de même que nous n'entendrons que les prénoms des militaires dans le reportage. C'est par souci de discrétion ?
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de garder une certaine anonymisation des noms pour des raisons de sécurité.
Très bien. Et en duplex à Paris, Mathieu Langlois, médecin-chef du RAID. Alors, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour. Nous allons donc écouter ensemble le reportage de Nathalie Hernandez. Nathalie, le mois dernier, vous avez pu suivre les équipes médicales de Barkhane pendant une semaine au Mali.
Oui, ces combattants sauveteurs, ils le disent eux-mêmes, sont l'assurance vie de leurs camarades. Ils prennent soin d'eux au quotidien, mais aussi dans les moments les plus difficiles, tout cela dans des conditions climatiques rudes et dans un contexte de menaces élevées. Comme ce 1er juillet dernier à Gao, dans le centre nord du Mali, c'est un dimanche matin, il y a du monde dans les rues. Les soldats français sont partis en patrouille avec des collègues maliens en véhicule blindé. Ce que vous entendez là, ce sont des tirs de riposte. Quelques minutes plus tôt, un kamikaze a fait exploser son véhicule au passage de leur convoi. Deux personnes sont tuées, une vingtaine de civils blessés. Quatre soldats français sont également touchés. Les secours envoyés par la base militaire de Gao vont arriver très rapidement. Parmi eux, le caporal-chef Geoffrey, auxiliaire de santé secouriste de niveau 2.
Quand nous arrivons, ce n'est pas tellement ce que nous voyons qui nous interpelle, c'est plus ce que l'on entend. Avant même de voir, on entend les gémissements des victimes, donc on arrive. Ce qui prend le pas, c'est les réflexes. Il n'y a plus la place au sentiment ou à l'émotion. Tout se hiérarchise dans notre esprit. Moi, j'ai été binommé justement avec l'infirmière Katia. On a pris en charge un patient, ensuite on a déroulé. Tout s'est enchaîné.
Vous avez stabilisé votre patient avec Katia ?
Tout à fait, oui. Enfin, stabilisé, il avait déjà une pose de garrot, parce qu'au préalable, des SC1, des secouristes au combat de niveau 1, on avait déjà effectué certains gestes. Alors lui, il avait une plaie hémorragique au bras gauche. Il avait une plaie à la joue gauche aussi. Donc ils avaient stoppé les hémorragies. La première cause de mortalité au combat, l'hémorragie. Sur ce point-là, ils ont fait du bon boulot. Nous, ensuite, on vérifie la pose de garrot. On va un peu plus loin dans le geste médical. J'ai perfusé le patient pendant que l'infirmière préparait les drogues. Elle a passé les drogues. Ensuite, on a rechecké la totalité. On a emballé les petits pansements. Bien sûr, quand on prend en charge un patient, on reste à l'écoute des collègues qui peuvent demander de l'aide éventuelle.
Ce que vient de raconter le caporal-chef Geoffrey constitue la base de cette chaîne médicale. Il faut savoir que tous les soldats sont formés au SC1, le premier niveau du sauvetage au combat. Pour une simple raison, sur le terrain, le temps est aussi un adversaire, rappelle le médecin-chef Luc. Il dirige le rôle 1 de GAO, le poste médical avancé, l'équivalent de notre SAMU.
Pour faire simple, sur le champ de bataille, vous avez une partie non négligeable des blessés qui meurent dans la première heure. Il y a 80% qui meurent d'hémorragie, il y en a même 90%. Vous en avez 8% à peu près qui meurent de détresse respiratoire et vous avez 1 à 2% qui vont mourir d'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc l'ensemble des mesures qui ont édicté le sauvetage au combat, qui était issu d'une pratique américaine, le T3C, c'était de dire on va cibler ces blessés-là, parce que ceux-là, ils sont sauvables. Et qui commence par sauver son camarade, hein, c'est pas moi, c'est d'abord le combattant. C'est que si on veut que l'équipe médicale arrive sur un blessé vivant, il ne faut pas qu'il soit mort dans ses 10 premières minutes, dans ses 30 premières minutes.
Donc vous avez tous avoir en datation les trousses comme ça. Il s'appelle trousse individuelle de combattant. Donc, je l'ouvre.
Pour assurer sa survie ou celle de son frère d'armes, l'outil qui indispensable, comprend. C'est la TIC, la trousse individuelle du combattant. Là aussi, tous les soldats en sont équipés.
Vous avez un pansement type israélien pour arrêter les hémorragies. Vous avez un garrot pour arrêter toutes les hémorragies de membres. Et donc là, ce garrot, il ne faut pas le voir comme l'enseignement qu'on a pu avoir en secourisme civil. Le garrot, là, il est pour que les gens ne meurent pas d'hémorragie. Donc on ne demande pas aux gens de réfléchir. Un blessé aux membres, on met un garrot. C'est à nous, derrière, très rapidement, de nous occuper du garrot. Donc c'est vraiment un garrot qu'on appelle tactique. Le pansement. Et ensuite, vous avez des positions d'attente. Vous avez un pansement de type 3 côtés pour permettre une meilleure ventilation des blessés au thorax, voilà. Quand vous avez un trou dans le thorax, quand vous inspirez, l'air va essayer de rentrer par ce trou et donc ça va plaquer le morceau de la feuille de plastique sur le trou. Et quand vous allez expirer, l'air va vouloir ressortir et va pouvoir sortir puisque vous avez un échappatoire, comme une valve à clapet. Ce qui permet de tolérer largement les premières minutes avant l'arrivée des équipes soignantes. Et ensuite, vous avez aussi 2 sirettes de morphine, vous avez vu dans votre trousse, pour calmer la douleur. Voilà.
Une fois que le soldat a posé son garrot ou ses pansements, c'est au tour de l'équipe médicale mobile de prendre les choses en main sur le terrain. Ils sont 2 au minimum et pourvus d'un sac à dos bien rempli.
C'est un mini camion du SAMU dans un sac.
Le médecin Guillaume.
Alors c'est un sac à dos de randonnée d'une 45 litres à peu près, qui contient tout le matériel nécessaire pour prendre en charge un blessé de A à Z avant de l'évacuer. Voilà, donc dans mon sac, il est compartimenté, c'est-à-dire que j'ai des compartiments à l'extérieur qui me permettent de commencer à prendre en charge des blessés sans ouvrir mon sac. Le massive bleeding, ce qu'on appelle le massive bleeding, les hémorragies non contrôlées. Donc j'ai une trousse sur l'extérieur qui s'ouvre avec des garrots, des pansements divers et variés. Et j'ai de quoi arrêter un saignement sans ouvrir mon sac. Ensuite, en fonction du délai et de la situation opérationnelle, si je suis en sécurité, je peux être amené à prendre en charge le patient soit avec sa TIC, soit avec mon matériel en ouvrant mon sac. Mais ça nécessite d'avoir un peu plus de temps pour travailler et de pouvoir être un peu plus réactif au niveau du déplacement. Parce que si la situation se dégrade, il faut que je puisse fermer mon sac et partir en courant. Parce que la priorité, c'est bien sûr de se protéger avant tout. Donc une fois que j'ai un peu plus de temps, je peux ouvrir mon sac et donc j'ai des pochettes de couleurs avec tout ce qui est pansements abdominaux. Ensuite, pour prendre en charge les voies aériennes supérieures, dans une trousse dédiée. Ensuite, le traitement du choc avec des kits de perfusion et du matériel qu'on appelle ZIO, c'est des perceuses qui permettent de faire des voies intra-osseuses, c'est-à-dire qu'on va passer des solutés par l'os. Ensuite, j'ai de quoi transporter mon malade. Donc j'ai des brancards filés. C'est des petits brancards qui font 100 grammes. C'est des grands filets qu'on déploie sous le patient. On met par-dessus une couverture de survie qui est dans mon sac. Qui permet aussi à faire bâche pour moi le soir. Ça me fait une économie de poids. C'est-à-dire que ma couverture de survie elle me permet de vivre aussi sur le terrain. Voilà. Avec un sac comme ça, on prend en charge un blessé de manière complète. Il est trop lourd. Alors plus le médecin est jeune, plus le sac est lourd. Il fait à peu près 25 kg sans l'eau. Il faut au moins une dizaine de litres d'eau par jour, par personne, pendant les opérations. Avec, ça fait 35 kilos.
On ajoute à cela l'équipement.
Donc il y a l'équipement complet, c'est-à-dire le casque lourd, avec les optiques de nuit si nécessaire, l'armement, le gilet par balle. Le gilet fait une quinzaine de kilos, le casque 3-4 kilos, l'arme 5 à 6 kilos. Donc il faut être du même niveau physique que les hommes qu'on soutient.
Il faut savoir que quelle que soit la mission, une patrouille ou une infiltration, un binôme médical accompagne toujours les soldats. À chaque intervention, il applique la même procédure, détaille le médecin-chef Luc.
La réaction face à un blessé de guerre, elle sera toujours identique. Elle procède d'un moyen mnémotechnique qui s'appelle Safe March Ryan. Donc ça commence toujours quand vous êtes au contact avec l'ennemi par un safe. Donc S pour secure. Parce que quand on se fait tirer dessus, d'abord on va d'abord comprendre ce qui se passe, on va se cacher, on va riposter. Le A pour assess the scene, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe autour de moi, je comprends la situation, où sont les blessés, où sont les amis, les ennemis. F pour free of danger for you, c'est-à-dire ok, la situation tactique va me permettre de faire quelque chose, alors seulement E, evaluate, je vais aller évaluer les blessés. Donc ce safe, il est capital et il est enseigné dès le début pour bien comprendre la démarche. Et c'est un petit peu une nouveauté pour le service de santé de dire que ben, finalement, peut-être avant que de soigner les gens, on va peut-être parfois être amené à riposter ou à faire des actions militaires pour ne pas mourir et pour pouvoir se mettre dans des bonnes conditions. Il faut accepter de ne pas pouvoir s'occuper du blessé dans les 10 premières minutes parce que sinon, ça ne va pas se passer correctement. Et ensuite, on arrive sur la partie médicale. Alors, évaluer le blessé, évaluer un ensemble de blessés, où là, on va faire un triage sommaire pour définir ceux qui sont d'emblée graves, ceux qui sont moins graves, pour permettre d'enchaîner derrière sur la prise en charge du blessé. Et donc, cette prise en charge, elle est standardisée. Vous l'avez vu, elle revient ici avec un marche, là. Voilà. Donc, le M pour Massive Bleeding Control. Donc là, c'est le contrôle des hémorragies. Ensuite, le A, c'est pour airways. Qu'est-ce qui se passe entre la bouche et les poumons? Le R, donc ok, il respire, l'air passe. Est-ce qu'il respire bien? Respiration. Ensuite, seulement arrive le C pour circulation. C'est-à-dire là, est-ce qu'il a un pouls radial? C'est-à-dire, est-ce qu'il a une tension suffisante? Ensuite, le H pour head et hypothermie. Le point d'attention aujourd'hui, vraiment, pour lequel on peut encore s'améliorer, qui paraît anodin, c'est lutter contre l'hypothermie qui aggrave les troubles de la coagulation et qui vont nous amener, malgré une belle prise en charge d'un patient ici, peut-être qu'on va livrer un malade au réanimateur bêtement aggravé parce qu'on ne se sera pas assez soucié de la partie d'hypothermie. Et E pour evacuate, où là c'est le début du remplissage de la fiche médicale de l'avant et on va dire de la détermination de quelle manière on va pouvoir l'évacuer.
Tout au long de son transfert, l'état du blessé sera réévalué jusqu'à son arrivée au rôle 2, l'antenne chirurgicale de Gao, dirigée par le médecin principal, Kevin.
Donc ici, nous sommes dans le couloir central du rôle 2, à partir duquel vont toutes les pièces. Voilà. Donc ici, nous sommes au niveau du déchocage. C'est la salle dans laquelle on accueille les blessés, à laquelle on fait des évaluations rapides, codifiées, pour avoir les infos les plus pertinentes les concernant. On réalise ici des échographies, des radiographies. On peut transfuser, réanimer, placer sous respiration artificielle. Voilà, le déchocage.
Ici, ils sont 22, réanimateurs, chirurgiens, infirmiers ou encore aides-soignants.
Un rôle 2, brièvement, c'est un hôpital. Il y a des organes vitaux dans ce rôle 2. Les organes vitaux sont toutes les pièces axées autour de la prise en charge de blessés, justement. Donc, dans l'ordre, ça peut être le déchocage. Dans la foulée, s'il présente une détresse vitale et un problème chirurgical, c'est le bloc opératoire. C'est le cœur battant du rôle 2. Et c'est le centre névralgique. C'est là où le patient doit arriver le plus vite possible, le bloc opératoire. Si un patient nécessite des techniques de survie artificielle, on peut le maintenir en réanimation, en attendant qu'il soit évacué vers la métropole. Nous avons deux infirmiers.
C'est quoi qu'on entend ?
Le téléphone.
Oh fallait le mettre sans chauffer.
Le téléphone, quand vous recevez un appel, ça peut venir de qui ?
Ça vient forcément de la force, de Barkhane. Le coup de fil le plus important, c'est le coup de fil du PEC. PEC, c'est l'acronyme de Patient Evacuation Coordination Cell, la cellule qui régule tous les flux de patients, de blessés à l'intérieur du théâtre, qui coordonne les évacuations, les hélicoptères. C'est ce coup de fil, lorsque la sonnerie retentit, qui nous annonce l'arrivée des blessés, qui nous donne leur nombre, qui nous donne des éléments sur leur gravité et qui nous permet, avec un préavis assez variable, nous, de nous organiser et d'organiser les soins. La nature des interventions, c'est assez variable. Tout d'abord, le cœur de métier, on a eu des blessés de guerre. Les plaies de guerre, entre guillemets, c'est essentiellement des plaies par balles. Ce sont des lésions en rapport avec des explosions, des éclats, des brûlures, des choses comme ça. Donc nous en avons eu. Et puis après, ponctuellement, des urgences qui n'ont rien à voir avec la guerre. On a été amené à faire des appendicectomies, traiter des infections qui nécessitent des lavages chirurgicaux. Bon, à notre quotidien. Nous, nos plus grosses interventions ont été faites au profit de militaires français. Intervention assez intense d'un point de vue chirurgical et réanimatoire. Et autre intervention assez importante a été réalisée au profit de militaires maliens, FAMA. Ils font partie aussi des patients auxquels on prodigue des soins. Ils sont assez exposés et bénéficient de nos services. Et par exemple, nous avons reçu des militaires maliens avec un traumatisme crânien grave. Et nos chirurgiens ont pu pratiquer des gestes de neurochirurgie assez exceptionnels. Je vous fais pénétrer dans le bloc opératoire. Hop, donc bloc opératoire. Le patient est sur table. Là-bas, mes deux infirmiers anesthésistes. Ici, la partie chirurgicale, l'infirmier de bloc opératoire. Et deux invités, des militaires de la force qui viennent assister aux interventions. Très bien. On va passer du côté par là-bas. Le bloc, je disais que c'était le cœur palpitant du rôle 2. C'est aussi un goulot d'étranglement. Lorsqu'on reçoit un blessé, ça ne pose aucun problème. Tout le rôle 2 est à lui. Lorsqu'on reçoit plusieurs blessés, lorsqu'il y a un afflux, cet afflux peut être saturant, saturer nos capacités à l'accueillir. On est obligé, on est formé à procéder à un triage qui va permettre pour nous d'élaborer une vraie stratégie. On va définir des priorités de passage, placer nos pions sur le rôle 2, faire passer un tel au bloc opératoire, pendant ce temps-là on envoie l'autre au scanner, pendant ce temps-là un troisième on le place au déchocage. Et notre politique, c'est de mettre les deux chirurgiens sur un patient de manière synergique pour plus d'efficacité, pour une intervention la plus brève et la plus vitale possible. Plus l'intervention est efficace, plus elle est brève, plus rapidement on peut amener le patient suivant sur table. Le but du jeu à la fin d'un afflux, c'est que tous les patients soient en sécurité, d'un point de vue médical. Après, on peut se poser, souffler, refaire le point, mais il faut traiter toutes les urgences chirurgicales pour les mettre tous en sécurité. On va laisser passer, si vous voulez bien. Je vous présente le médecin principal Vincent. Voilà, notre chirurgien viscéraliste, l'un des deux chirurgiens de l'antenne chirurgicale et donc du rôle 2.
Là, vous venez de finir d'opérer, c'est ça ?
Alors, pas moi ce matin, c'était mon collègue orthopédiste qui a opéré ce matin, mais là, je m'occupe des consultants et des soins post-opératoires des patients des semaines précédentes. Alors, on est arrivé il y a 2 mois et demi, pour l'instant, on en est à 72 opérations au total. Alors, le plus grand défi, c'est justement d'avoir à faire des gestes qui ne sont pas de notre spécialité, puisqu'en France, je ne fais que de la chirurgie viscérale, donc je me limite à la chirurgie de paroi et la chirurgie intra-abdominale. Et ici, il faut qu'on s'occupe de tout, même si la blessure est thoracique, même si la blessure est vasculaire. En France, ce serait des chirurgiens spécialisés qui s'occuperaient de ces blessés. Et ici, c'est pour nous. Donc, le plus grand défi, c'est ça, c'est de faire des chirurgies qu'on ne fait pas au quotidien en France.
Médecin au combat, embedded avec Barkhane, un reportage de Nathalie Hernandez avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le général Christian, chef de la division milieu à la direction de la médecine des forces, est en studio avec nous à Bayeux et Mathieu Langlois, médecin-chef du RAID, est en duplex à Paris. Général Christian, il est parfois aussi bien pour nous à la radio de nous passer des images, parce que là on a entendu des soignants qui parlent très sobrement d'une réalité très rude. En fait, il s'agit d'un travail très exigeant.
Ah oui, tout à fait. Le soignant à Barkhane, comme vous l'avez entendu, c'est d'abord un combattant. C'est un combattant qui doit déjà faire face aux conditions météo qui sont très difficiles, avec un sac à dos, comme vous l'avez vu, très lourd. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et le médecin, comme l'infirmier, comme les auxiliaires sanitaires, ont une charge qui est plus importante que le soldat. Et ils doivent toujours rester à l'affût parce qu'il peut se passer toujours quelque chose. Ils ont appris, et c'est tout l'enjeu de la formation, à pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et ça, c'est l'école du Val-de-Grâce qui s'en occupe. L'objectif, c'est que les gens ne soient pas surpris parce qu'ils vont rencontrer au niveau tactique comme au niveau technique médical. Et ils apprennent l'acronyme que vous a présenté Luc, c'est pour éviter que ça passe par le cerveau. Les gens ne doivent pas réfléchir. Quand ils partent sur une intervention, ça reste à un niveau spinal. Les gens se récitent de temps en temps parce que ça les rassure. Ils se récitent pendant le transport jusqu'à l'arrivée sur le site, le Safe March Ryan, et ils vont intervenir, ils vont pouvoir faire les bons gestes au bon moment.
D'où l'importance des protocoles. Ça devient un automatisme.
C'est un automatisme et il faut que ça soit un automatisme.
Mathieu Langlois, est-ce que vous vous retrouvez dans les témoignages que vous avez entendus ou est-ce que le travail des médecins du RAID est vraiment très différent ?
Ah non, je m'y retrouve parfaitement. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que pour vos auditeurs, c'est qu'on soit dans des opérations extérieures ou sur le théâtre national dans le cadre des forces d'intervention de la police ou de la gendarmerie, on fait de la médecine en situation dégradée. Et pour ça, c'est tout ce qu'on a appris en termes de médecine d'urgence ou d'anesthésie réa qui a été largement évoqué dans votre reportage. L'important, c'est de comprendre que cette médecine que tous les médecins en France connaissent et pratiquent, là, on doit adapter les procédures, adapter les techniques, adapter les décisions. Hein, on parlait de triage, tout ça, c'est des choses on doit adapter aux contraintes. Et les contraintes sont différentes qu'on soit en opération extérieure ou sur le territoire national dans le cas de tuerie de masse par exemple. Donc chaque contrainte nécessite une formation adaptée, mais sinon c'est exactement la même activité de médecin urgentiste ou d'anesthésiste réanimateur ou de chirurgien.
Nathalie Hernandez.
Ça a été votre cas concrètement, Mathieu Langlois, puisque vous étiez au Bataclan le 13 novembre. Hein.
Oui, mais ce qui a été dit dans le reportage pour les médecins qui soutiennent les forces lors des opérations extérieures. Évidemment, nous, quand a été créé le soutien médical pour les forces d'intervention de la police nationale, on sait, on a beaucoup échangé, on se connaît bien, on a regardé ce qui se faisait sur le territoire national, mais aussi à l'international. Ça a été évoqué, on parlait de la T3C, on a dit qu'il fallait pas utiliser d'acronyme, mais tout ça, en fait, c'est des techniques pour adapter nos moyens médicaux, nos procédures médicales pour être le plus efficace possible et le plus adaptable possible par rapport à des contraintes. Et ça a été dit, c'est le danger, ça peut être l'isolement dans le cadre des opérations extérieures.
Alors, vous avez dit tous les deux qu'il fallait être formé à ça. Général Christian, en quoi est-ce que la formation va être spécifique ? Parce que le cursus de médecin, il est commun à tout le monde. Il y a quand même déjà, dès le début, au niveau de la formation initiale, des particularités.
Oui, alors, les élèves qui sont à l'école de santé ou les élèves infirmiers qui sont à l'école, qui sont formés en secteur civil aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'ils ont une formation complémentaire qui commence dès l'école, dès le premier cycle où ils vont commencer à être formés au sauvetage au combat niveau 2, niveau 1, au deuxième cycle formation au sauvetage au combat niveau 2, et puis après ils ont des formations complémentaires parce que un médecin militaire, c'est un médecin urgentiste, c'est un médecin tropicaliste, c'est un médecin du sport, il fait de la médecine d'expertise également. Donc c'est tout ça un médecin militaire. Il faut être formé en complément pour que ça puisse fonctionner. Et après, il y a des formations qui sont en équipe. Puisque avant de partir sur un territoire d'opération extérieure, les gens vont bénéficier d'une formation qui va comprendre de la simulation. Donc ça, c'est fait en liaison avec l'école du Val-de-Grâce, au centre d'enseignement et de simulation à la médecine opérationnelle. Il va y avoir des formations de pratique de gestes d'urgence. Ça, c'est réalisé dans nos hôpitaux d'instruction des armées. Et puis, il va y avoir des exercices d'entraînement collectif avec les armées, et notamment l'armée de terre, ce qu'on appelle le stage de médicalisation en milieu hostile, qui est aussi intéressant pour les militaires qui le font que pour les équipes médicales. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un travail de communication, de coordination, de résolution de problèmes, d'utilisation des ressources. C'est ce qu'on appelle le crew resource management ou le crisis resource management. Ça permet d'avoir un échange. Parce que la première personne qui commande, c'est pas le médecin. C'est la partie tactique qui va décider que le médecin peut bénéficier de 2 minutes. Au contraire, il faut se sauver vite, ou au contraire, la situation est stabilisée et il peut ouvrir son sac.
Mathieu Langlois, pour vous, au RAID, en termes de formation, qu'est-ce qui est le plus essentiel ?
Vous parlez des médecins ?
Oui.
Voilà. Les médecins, de toute façon, ce qu'il faut déjà dire, c'est rassurer vos auditeurs, c'est que tous les médecins urgentistes, anesthésistes, réa, c'est ceux qui sont le plus concernés par le sujet dont on parle, en France, sont tous très bien formés pour gérer des hémorragies, parce que c'est malheureusement le quotidien dans les urgences, dans les hôpitaux français.
On n'en doutait pas, mais là, il y a quand même une situation particulière.
Bien sûr.
Où il faut être
Je vais répondre. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sélections. C'est, par exemple, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pas avec vous. On sélectionne des profils médicaux, mais pas uniquement. Et après, il y a une formation. On a mis en place un brevet médical tactique qui ressemble. Alors, on a moins de temps et moins de stages, mais l'objectif est évidemment le même. C'est de pouvoir projeter des médecins dans des situations très particulières et qui demandent un apprentissage, un entraînement et un entraînement régulier.
D'accord. Et alors, Général Christian, sur le terrain, les médecins de l'armée sont amenés à faire des choses qu'ils n'auraient pas du tout faites s'ils étaient restés sur le territoire national. Finalement, ils élargissent leur zone de compétence.
Alors, l'exemple le plus flagrant, c'est les chirurgiens. Les chirurgiens, ils sont formés pour être sur un théâtre d'opération, neurochirurgien, ou pour être formés pour faire une chirurgie du cœur ou une chirurgie vasculaire. Donc, alors, il y a des fois où on fait venir un neurochirurgien sur un geste particulier qui peut arriver avec l'avion qui va faire l'évacuation médicale stratégique, mais ils apprennent des gestes qui sont difficiles, qui ne pratiquent pas souvent, et c'est pour ça qu'il y a une formation qui a été mise en place, qui est la formation, le cours avancé de chirurgie pour les missions extérieures, qui leur permet d'apprendre tout cela.
Il faut être capable de s'adapter à toutes les circonstances, y compris dans un sous-marin, par exemple, ce qui n'est pas
fait,
le cas de la mission Barkhane.
Mais... Oui, y compris dans... Alors, le médecin qui est prévu dans un sous-marin, il fait une formation qui est pas loin de 18 mois, parce qu'il est à la fois dentiste,
il peut être
chirurgien, parce que si jamais il est obligé de faire remonter le sous-marin... Eh bien, le sous-marin est visible. Et donc, on perd son efficacité. Et ça, c'est un enjeu stratégique majeur.
Et vous devez aussi vous adapter au territoire, puisque en Afghanistan, par exemple, c'est pas du tout la même configuration que dans le Sahel, qui est à la taille de l'Europe.
Alors là, l'adaptation, elle a plutôt été faite sur le volet de la prise en charge médicale. En Afghanistan, en 20 minutes... Le blessé était évacué sur un de nos hôpitaux ou sur Bagram, sur l'hôpital américain. Aujourd'hui, à Barkhane, il faut compter 1h30. Et dans certains cas, l'évacuation est complexe. Il faut basculer le blessé d'un hélicoptère. Il faut aller le chercher, déjà. Il faut l'amener sur un endroit où on peut poser un petit avion qui est un casa nurse, qui a une équipe médicale. Donc, de jouer le transfert de se blesser pour l'amener au niveau du rôle 2, qu'il soit opéré. Et après, il y a le deuxième temps, c'est-à-dire qu'il faut l'évacuer jusqu'en France. Et là, la chance, c'est que pour un blessé français aujourd'hui, en 24 heures, 36 heures, le blessé est en France. Et c'est quand même rassurant pour nos soldats d'avoir une chaîne santé complète, performante. On est un des rares pays au monde à être capable de faire ça.
Alors, la médecine militaire doit s'adapter à toutes les circonstances. Elle est donc par nécessité inventive et de nombreuses innovations ont pu exister grâce justement au travail au sein de l'armée. On retrouve le médecin Guillaume qui nous présente un outil précieux, une ceinture pelvienne permettant de stopper des hémorragies.
C'est un nouveau dispositif qui est assez récent, qui permet de faire ce qu'on appelle une ceinture pelvienne, donc de tenir les os du bassin et en même temps de pouvoir arrêter une hémorragie. Là, c'est un dispositif de petit ballon qui va se gonfler au niveau des artères fémorales notamment, qui va permettre d'éviter un saignement des parties jonctionnelles, donc c'est-à-dire entre les membres et le tronc. Alors ça se pose très simplement, c'est une sorte de grande ceinture qui fait 5 cm de large, que vous disposez autour du bassin du patient. Il y a des scratchs le long de cette ceinture sur lequel vous collez le dispositif qui va permettre de gonfler un ballon contre l'artère fémorale. Et il y a ensuite un petit système de pompe pour gonfler ce ballon. Et ça va permettre d'appuyer par compression. La ceinture va être fermée et par compression, en comprimant le ballon qui est sous la ceinture, vous aurez une compression des gros vaisseaux des membres inférieurs. Alors ça fonctionne très bien. Ça a été nombreuses fois utilisé et avec pas mal de succès sur les derniers retours qu'on a. Et ça prend pas beaucoup plus de place qu'une ceinture toute simple. Ce qui fait qu'en fait, avec un seul dispositif, on peut avoir deux actions différentes.
J'arrive pas à trouver le trajet qui va
sur le dos.
Plus petit, plus léger, on l'emporte partout. Le FastCan, un échographe miniaturisé, qui est une aide supplémentaire essentielle au diagnostic. Comme ici, le médecin-chef Luc et son équipe viennent de recevoir un civil malien blessé par balle.
Une baie dans le dos, là, qui est suturée, et là, le poids.
Je pense qu'il a pris probablement une balle en séton et en fait elle n'est pas du tout rentrée. Elle est loin dans la chair, mais elle n'est pas rentrée dans l'abdomen. On va bien regarder. Là. Le fonctionnement aussi qu'on a dans un poste médical classique, c'est qu'on a un échographe, pour l'instant un échographe de type V-scan, qui permet là aussi deux types d'utilisation. L'utilisation première du V-scan, c'est de faire ce qu'on appelle la fast echo, objectif, découvrir si un blessé de guerre a du sang dans le thorax ou dans le ventre. C'est l'objet principal de la présence de cet échographe en rôle 1. Mais après, nous, maintenant, tous les jeunes médecins commencent à être bien formés à l'échographie, donc après, on peut faire plein d'autres choses. Hein, voilà, colique néphrétique, pathologie musculaire, et ça, on en a beaucoup puisqu'on fait beaucoup de sport. Donc, très intéressant. Là, en fait, on fait une écho non pas pour faire ce qu'on appelle la fast échographie pour voir s'il a une atteinte, on va dire, abdominale, mais plus pour essayer de localiser éventuellement la balle. C'est bon.
Donc il se présente comme un smartphone, quasiment le format d'un smartphone. Vous avez donc la sonde avec un côté pour les explorations profondes et un côté pour les explorations superficielles. Donc plusieurs modes. Et donc ça, c'est une formation qui est très rapide. C'est quelques heures, hein. C'est vraiment très très facile à mettre en œuvre.
On le rallonge, on lui mettra la couverture sur.
Chaque poste médical a son échographe et ici au Mali, chaque véhicule blindé sanitaire en a un. Sur le terrain, les équipes médicales ont souvent besoin de transfuser le blessé. L'arrivée du Plio, le plasma lyophilisé, a considérablement amélioré les choses pour le médecin-chef Luc. Et pour le reconstituer, il suffit simplement d'ajouter de l'eau à cette poudre.
Le plasma lyophilisé qui se reconstitue en 6 minutes. La particularité, c'est qu'il faut vraiment bien le remuer tranquillement. Il ne faut pas se précipiter pour pas que ça fasse de grumeaux. Et ensuite, on peut le passer. C'est donc vraiment un des éléments importants de la prise en charge du blessé de guerre. Tout est bien expliqué. Et ça, bien sûr, ça fait partie de la formation qu'on donne aux médecins, aux médecins en cours, et aux infirmiers, aux auxiliaires sanitaires pendant la préparation de la mission.
Voilà. C'est une réalité. Ça, c'est une trouvaille militaire française.
Oui, voilà, du centre de transfusion sanguine des armées. Voilà. Ça améliore la prise en charge initiale du blessé de guerre et ça permet que le rôle 2 reçoive un blessé dans un meilleur état hémodynamique et avec une limitation du risque des troubles de la coagulation. Donc c'est pour ça qu'on le fait précocement, et c'est aussi pour ça que vous avez les deux poches de sang qui sont prépositionnées pour que quand le malade arrive au chirurgien ou au réanimateur, on ait limité vraiment ce risque de troubles de la coagulation.
Pour gagner encore sur le temps, le centre de transfusion sanguine des armées a développé une procédure d'urgence, le sang total. Les soldats sont appelés à donner leur sang, un kit permet ensuite de l'analyser, puis de le transfuser directement, nous explique le médecin-chef Luc.
Sommairement, en fait, comment c'est fait. Vous avez une grande pochette qu'on ouvre, voilà, dans laquelle vous avez l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation du don de sang total, avec le mode d'emploi. Contrôle des groupes sanguins avant la sélection du donneur. Vous avez la fiche qui va permettre d'interroger et de savoir s'il peut donner. Ensuite, ici, vous avez la partie désinfection et prélèvement de sang. Ensuite, vous avez la poche en elle-même, qui possède aussi une petite poche ici qui sert à prélever le sang pour faire les tests rapides. Comme ça, on prélève ça tout de suite, on prend un tube et on gère les tests de virus, hépatite C, hépatite B, VIH. Et ensuite, la poche se remplit.
on a les kits et après la partie pour transfuser. Donc ça, après, quand ça c'est prêt, on a le transfuseur qu'on va piquer dedans et on amène l'ensemble au rôle 2 et ils vont pouvoir transfuser.
Voilà, alors Mathieu Langlois, est-ce qu'au RAID aussi vous avez adopté ces innovations ?
Alors certaines, pas toutes, parce que, comme je vous l'avais dit, hein, on doit s'adapter à chacun à nos contraintes et elles sont différentes. Ça a été parfaitement dit dans le reportage, les militaires dans les opérations extérieures travaillent de façon très isolée et donc les temps d'évacuation seront forcément très préjudiciables. Hein. Luc l'a très bien dit, le temps joue forcément contre nous. Au RAID, on intervient dans l'immense majorité des cas dans des zones urbaines où on a le soutien de services de secours que sont les pompiers et surtout de très nombreux hôpitaux. Et on travaille donc beaucoup aussi sur tout un tas de procédures pour accélérer les flux, pour que le blessé aille le plus rapidement possible dans un bloc opératoire. Donc évidemment, on regarde et on est formé pour utiliser tout un tas de matériel dont certains ont été évoqués, mais on travaille beaucoup aussi pour gagner du temps, parce que 6 minutes par exemple pour mettre du sang lyophilisé, ce que je comprends tout à fait sur un territoire d'opération extérieure où on a dit qu'il y avait 1h30 de délai, nous 6 minutes c'est probablement le temps qu'on doit mettre pour être dans un bloc opératoire, en tout cas c'est l'enjeu qu'on essaye de se fixer.
Et puis pour le son, c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire un appel aux dons. Après les attentats, il y avait eu beaucoup de volontaires, même si au quotidien, c'est toujours un peu plus difficile de solliciter les gens.
Non, mais de toute façon, dans tous les trauma centers de France, il y a une banque de sang. Du sang, pour des extrêmes urgences, on va en trouver, il n'y a pas de problème. Après, évidemment.
En fait, les problématiques, voilà, sont pas exactement les mêmes.
Non, mais exactement. Et ce qui est on fait le même métier. Ce qu'il faut, c'est l'adapter chacun nos contraintes. Et les militaires ont des contraintes, évidemment, d'isolement qui sont majeures. Et évidemment, toute l'innovation va porter là-dessus. Nous, nos contraintes seront différentes. On va être sur de la gestion plutôt d'afflux de victimes, avec au contraire un travail avec une coordination avec les autres services, que ce soit les services de secours, les SAMU et les hôpitaux.
Nathalie Hernandez.
Justement, Mathieu Langlois, qu'est-ce que vous avez amélioré depuis novembre 2015 sur cette coordination et sur la gestion en milieu urbain avec les secours ?
Ben, beaucoup de choses. D'abord, on avait commencé avant 2015 à dire que c'était essentiel de travailler tous ensemble et qu'il n'y avait pas d'un côté une mission dite de police ou une mission militaire et de l'autre côté une mission de secours, y compris dans le cas de très nombreuses victimes. Et on a bien fait de s'intéresser à ça avant 2015. Évidemment, après 2015, on en a tiré de très très nombreux enseignements. Et là, actuellement, la coordination, en tout cas de l'avant, on va dire, entre les forces de sécurité, les forces de police et les services de secours, elle est quasi immédiate. Elle fonctionne sur l'ensemble du territoire. Nous, on participe à de très très nombreux exercices, justement, et les progrès dans la fluidité des circuits d'évacuation, ils sont considérables.
Et le partage d'expérience, il se fait aussi entre l'armée, la police et la gendarmerie, général Christian ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a, on a tous besoin des retours d'expérience. Ces retours d'expérience sont analysés et pour essayer d'en tirer des leçons. Et lorsque ces leçons sont validées, alors soit c'est validé en boucle très courte, on se rend compte qu'il y a un phénomène, il y a un souci sur un matériel, par exemple, qui n'est pas adapté, et on va le changer très vite, soit ça nécessite un peu plus de travail. Voilà, les exemples que vous avez cités sont caractéristiques. Hein. La ceinture pelvienne, ça fait l'objet d'un travail de thèse par un jeune médecin militaire et qui a permis de valider ce système par rapport aux anciens. Le VESCAN, c'est le médecin-chef des marins-pompiers de Marseille qui avait travaillé dessus et qui avait validé pour le service cet appareil d'échographie. Donc on travaille justement pour justement tirer tous les retours d'expérience. Et le plasma lyophilisé, il existe depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est le mode d'emploi. Avant, il n'était que dans les rôles 2 ou les rôles 3. Et aujourd'hui, il est dans tous les convois en opération, il est dans tous les véhicules qui servent aux évacuations médicales aériennes. Donc c'est un vrai progrès dans l'évolution de la doctrine.
Et au service de santé des armées, quel est le budget dédié aux innovations ?
Oula, c'est... je ne sais pas.
Est-il important ? Est-il suffisant ?
Le budget n'est jamais suffisant parce qu'on a toujours besoin de travailler avec d'autres. On travaille avec la DGA, on travaille avec l'Institut de recherche biomédicale.
La Direction générale de l'armement.
Oui, la Direction générale de l'armement. On travaille avec notre Institut de recherche, l'IRBA, qui est l'Institut de recherche biomédicale des armées. Et ils nous aident beaucoup pour justement pouvoir, en aide méthodologique, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais si on veut que l'idée aboutisse pour avoir vraiment le produit dont on a besoin, et voilà, il faut travailler ensemble. Et la force du service, c'est être capable de pouvoir se mettre en configuration pour travailler là-dessus.
Nathalie Hernandez.
C'est une question pour Mathieu Langlois. Est-ce que, sans parler d'innovation forcément, mais en milieu urbain justement, est-ce qu'il ne faudrait pas, je vais être un petit peu provocatrice, mais moins de défibrillateurs et plus de garrots accessibles?
Mais ça, c'est un travail qu'on a mené sur les entre guillemets ce qu'on appelle les trauma box, c'est des garrots, enfin des boîtes de traumatologie basiques avec des garrots qui sont mis à la disposition du grand public comme sur le même principe que des défibrillateurs. Et ça existe, c'est développé aux États-Unis, c'est actuellement en cours de développement en France. Et alors ça va. Merci de me tendre la perche, mais évidemment que ça va dans le bon sens.
Alors, on vient de parler innovation technologique, on va maintenant parler psychologie, Nathalie, parce que si on est un soldat, on n'en est pas moins un être humain.
Oui, et sauver ses camarades, eh bien, ce n'est pas évidemment une chose facile, c'est ce que reconnaît le médecin-chef Luc.
C'est la plus grande difficulté, je pense, du médecin militaire. C'est l'immense différence qu'il y a avec un médecin du SAMU qui va sortir dans un camion blanc ramasser monsieur X ou monsieur Y. Or là, c'est pas du tout ça. Vous allez ramasser votre camarade. Donc c'est une préparation qui, je pense, est éminemment personnelle. Il faut se préparer à ça. Voilà. Et il faut en avoir vraiment conscience. La faute serait justement de ne pas avoir compris ça dans le métier de médecin militaire. Vous l'avez vu, on vit ensemble tous les jours. C'est d'abord un camarade que vous allez ramasser, donc ça se prépare.
Depuis le conflit en Afghanistan, un psychiatre est régulièrement envoyé sur les grands théâtres d'opération. Le médecin principal Sarah est arrivé mi-août à Gao pour 2 mois. Elle a déjà reçu une trentaine de patients. 5 ont dû être rapatriés en France, bien plus qu'elle l'imaginait.
Alors généralement, on va me solliciter pas forcément directement, c'est-à-dire que le soldat lambda ne va pas venir frapper à ma porte, et c'est le cas en métropole également, hein. C'est souvent via l'entourage professionnel, voire familial, le commandement notamment, que je peux être amenée à intervenir.
Alors quand vous intervenez, c'est pour quelles raisons? Il y a des récurrences?
Alors oui, il y a certaines récurrences. Il y a bien sûr ce que l'on connaît le mieux, j'allais dire, en population générale, c'est-à-dire tout ce qui est les troubles du registre psychotraumatique. Voilà, après un événement plus ou moins grave, ce qui arrive malheureusement régulièrement en mission. Après, je dirais, la deuxième motif de consultation, c'est très souvent ce qu'on appelle les troubles de l'adaptation. Voilà, ce sont souvent plutôt des jeunes militaires qui rencontrent des difficultés familiales, voire professionnelles, éventuellement les deux, parce que souvent l'un se complique de l'autre et vice-versa, et qui vont présenter des symptomatologies diverses, mais en général avec des réactions anxieuses ou dépressives, qui peuvent se compliquer de passage à l'acte, hein, ou d'addiction, choses comme ça. Donc ce ne sont pas des situations véritablement psychiatriques, mais qui peuvent potentiellement le devenir. Donc on intervient à ce moment-là, et le plus souvent, pas toujours, mais dans la majorité des cas, on les rapatrie en métropole. Même si notre objectif à tous, c'est de les maintenir opérationnels, on ne peut pas non plus prendre le risque. La psychiatrie, c'est aussi beaucoup ça, hein, la mesure du risque d'un passage à l'acte qui soit auto ou hétéro-agressif. Donc oui, on est quand même extrêmement vigilant à ça, et on préfère pêcher par excès de zèle que prendre le risque d'un geste malencontreux. Après, beaucoup de patients sont aussi adressés par les médecins des forces. Les médecins d'unité, les médecins du Rollin, parce que pour un certain nombre d'entre eux aussi, ils consultent de prime abord pour des motifs somatiques. Ça peut être des vertiges, des maux de tête, des plaques, des boutons, des choses comme ça, qui n'ont pas forcément de substrat organique. Et donc là, tout de suite, ça fait tilt pour les médecins des forces, parce que très souvent, pour ces gens-là, la souffrance passe par le corps. Ils ne vont pas l'exprimer clairement, le fait que ça n'aille pas bien psychiquement. Mais voilà, il y a des douleurs diffuses, il y a des choses un peu bizarres, inhabituelles chez eux.
Ce que redoute avant tout le soldat dans son cabinet, c'est d'être déclaré inapte.
Comme on a cette double casquette à la fois du soignant et de l'expert, il y a cette angoisse, parce que c'est une vraie appréhension, hein, une vraie inquiétude, et c'est souvent un vrai frein pour rencontrer les patients, c'est la question de l'aptitude. Parce que tout de suite est associé au fait d'aller voir le psychiatre, bon, il va me mettre inapte. Voilà, si je m'épanche sur mes difficultés, sur mes problématiques, il va penser que je suis plus apte à faire mon travail, et donc je vais être exempte d'un certain nombre de choses, voire être jugée complètement inapte au service. Alors ça, c'est vrai que c'est des problématiques qu'on rencontre peut-être plus en métropole. Dans le contexte opérationnel, les gens ont moins cette crainte-là, parce que d'abord, c'est pas la question. Nous, on est vraiment là en tant que soignants. On n'est pas là en tant que sapiteur, la vie à l'aptitude de la poursuite du service. Ça va arriver dans un second temps avec le relais au niveau des HIA et les psychiatres des HIA. Voilà.
Alors les HIA, ce sont les hôpitaux d'instruction des armées.
Alors quand on est médecin militaire, général Christian, on est donc amené à soigner ses camarades. C'est loin d'être anodin. Comment est-ce qu'on gère ça?
Bon, c'est une bonne question. Chacun le gère avec son expérience. Alors, il y a des... Là, on a eu notre psychiatre qui nous a parlé sur Barkhane. Les médecins des rôles 1 et les infirmiers sont formés également sur la prise en charge psychiatrique par des jeux de simulation qui sont réalisés. Et ça, c'est réalisé pour les jeunes qui sortent d'école, mais c'est réalisé également dans le cadre de la mise en condition finale avant la projection. Donc ça c'est très important parce que ça permet de ne pas être pris au dépourvu quand il s'est passé un incident, parce que vous avez les blessés, ils ont été pris en charge. Et après, vous laissez tout le reste de la section qui s'est retrouvée, et là, tous les impliqués, il faut les prendre en charge. Mmh. Il faut les prendre en charge parce que sinon, ils vont mettre leur mouchoir par-dessus et ça va exploser 3 mois, 6 mois, voire plus longtemps après. Donc ça, c'est très important. Mais ça, c'est toute la relation de confiance qu'on a avec les gens. C'est-à-dire que le médecin militaire, il a une action, je dirais, il doit prendre son bâton de pèlerin et aller voir les gens, serrer la main des gens, voir sur quel poste ils sont, quel poste de combat ils sont. Parce que si vous faites pas ça, le jour où il y aura un problème, ils viendront pas vous voir. Par contre, si vous connaissent et s'ils ont l'habitude de travailler avec vous, eh ben ils viendront vous voir avant qu'il se passe un drame. Et donc ça, c'est une vraie richesse.
Mais le médecin, il est lui aussi d'une autre manière, mais en première ligne, puisque par exemple, on entendait dans le premier reportage de Nathalie des cas de figure où il faut faire du tri, voir qui sont les personnes qu'on pourra sauver et laisser les autres sur le carreau, les autres qu'on connaît aussi.
C'est là où la démarche de triage qui est apprise et répétée, voilà. À ce moment-là, le médecin, comme l'infirmier, comme l'auxiliaire sanitaire, ils vont rester sur du technique. Ils vont faire, et le technique va prendre le lead. Mais après, il faudra gérer le reste, parce que c'est leur copain.
Et la culpabilité éventuelle.
La culpabilité, je ne sais pas si... sur un mascal, je pense que... Alors, pour éviter d'avoir ce problème de culpabilité, en fait, on fait un débriefing. C'est-à-dire qu'à l'issue d'une prise en charge, l'équipe soignante qui a pris en charge les gens va être reçue par le médecin-chef ou le médecin qui est au niveau du poste de secours, qui est un peu plus ancien, et qui va dérouler, à l'aide d'une fiche, de registre santé de l'avant, dérouler toute la prise en charge. Parce que le médecin, quand il sort d'un événement comme ça, il se dit j'ai merdé, excusez-moi l'expression, j'ai mal agi, j'ai fait des fautes, etc. Et quand on reprend la fiche, en fait, on peut le rassurer. Le SAFE, tu l'as fait. Le M, tu l'as fait. Et ainsi de suite, voilà. Et tu as fait le maximum de ce que tu pouvais faire à l'instant où tu étais là. Et donc déjà ça a une action très importante sur ce sentiment que pourraient avoir les gens de culpabilité.
Mathieu Langlois, quand vous êtes intervenu au Bataclan, comment est-ce que vous avez géré sur le plan émotionnel ?
Eh ben, ce qui a été dit est très vrai. Ce qu'il faut pour le soignant, évidemment, il devient un technicien, mais il doit être aussi surtout un décideur. Il faut qu'il garde sa lucidité et sa capacité à prendre des décisions malgré l'affect, malgré le contexte, y compris si c'est un de ses camarades. Ça, Luc et Christian l'ont parfaitement dit. Moi, je crois beaucoup à ce que c'est Damasio qui disait, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de décision. Donc, on est des techniciens, oui, mais il y a de l'émotion. Il faut par contre s'y préparer à accepter ces émotions, même les pires, les maîtriser et... à ce moment-là, devenir réellement un acteur de la décision pour organiser du triage, du flux d'évacuation et réaliser des gestes.
Et après coup, vous en avez reparlé entre vous, vous avez été accompagnés les uns et les autres?
Évidemment qu'on a débriefé, on a débriefé entre nous, on a débriefé avec d'autres services, on a débriefé aussi à l'international beaucoup, parce que ce qui s'est passé au Bataclan est quasi unique au monde, et donc on a eu besoin d'en parler avec des, par exemple les Norvégiens qui étaient intervenus sur l'île d'Utøya. Tout ça, ça permet de entre guillemets comparer les expériences, d'en tirer des enseignements plus riches. C'est, je pense, comme ça qu'on se protège le mieux à titre, si c'est votre question, à titre personnel. C'est comme ça qu'on avance le plus et qu'on, entre guillemets, se reconstruit le plus facilement.
Parce qu'on a clairement parlé également de stress post-traumatique pour les soignants.
Mais alors, ce qu'a dit Christian, c'est-à-dire que le stress post-traumatique, évidemment, il concerne tout le monde, qu'on soit pompier, policier, militaire, médecin du SAMU. Moi, je crois qu'il faut être très vigilant sur, évidemment, la façon dont on va encaisser les épreuves. Mais en général, les gens qui s'engagent dans des forces comme ça, bon, ils sont en principe choisis pour ça et ont le mental pour ça. Maintenant, il n'y a pas de super-héros, personne n'est infaillible. Et je suis certain qu'il faut être très vigilant sur une phase plutôt chronique où les troubles arrivent souvent dans un deuxième voire un troisième temps. Et c'est à mon avis là où il y a encore beaucoup de progrès à faire.
Sur un terrain de guerre, Général Christian, on peut être amené aussi à soigner ses ennemis,
oui.
Ceux qui ont tué nos camarades.
Bien sûr, c'est pas plus simple pour les soignants. Mais là aussi, on doit apporter cette plus-value-là. Et là, on doit faire on doit beaucoup discuter avec nos équipes, beaucoup discuter pour leur expliquer pourquoi on fait ça. Mais il faut le faire. Je veux dire, il faut le faire. Après, il faut le faire en sécurité, hein, parce qu'il n'est pas question de s'approcher d'un ennemi blessé si on n'a pas vérifié qu'il n'avait pas une grenade, un IED, une ceinture explosive, etc.
Mais vous le disiez tout à l'heure, les médecins militaires sont aussi des combattants. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, si nécessaire, être amené à tuer.
On peut être
amené. Alors là aussi, c'est compliqué pour un soignant.
On peut être amené à se défendre parce que on est en appui, on est en soutien, quand on fait, comme je vous ai dit, un quart de tour, on est au premier rang et là, on peut être amené à faire du tir au contact.
Vous êtes toujours armé.
Et on est toujours armé.
Ça fait partie de l'équipement du médecin.
Ça fait partie de l'équipement, d'abord pour défendre les blessés. Parce que malheureusement, il y a des fois où l'ennemi a tiré sur des blessés qui étaient brancardés. Hein, ça s'est passé sur des blessés français en Afghanistan. Hein. Donc voilà, il faut en premier défendre les blessés et puis défendre le détachement, parce qu'on est un petit détachement et c'est important.
Alors c'est là que c'est différent pour vous, Mathieu Langlois. La logique n'est pas du tout la même pour le RAID.
De se protéger, si, la logique est la même.
Oui, de se protéger, bien sûr.
Ça, c'est exactement la même. Après, bon, moi je vais pas parler de ce que je connais pas. J'échange beaucoup avec les forces spéciales, par exemple, mais je vais pas me permettre de donner mon point de vue sur les opérations extérieures. En tout cas, sur le territoire, moi, je sais que pour me protéger, j'ai suffisamment d'opérateurs du RAID surentraînés, dont c'est le métier. Moi, mon métier, je suis médecin, moi, à 100%.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une répartition des rôles. Donc vous, effectivement, votre rôle, c'est de soigner. Mais, et il y a d'autres personnes dont le rôle est de vous protéger.
Mais alors, si vous parlez du Bataclan, je vois jamais ce que j'aurais pu faire avec ou sans une arme. Ça n'a rien changé, ça n'aurait rien changé. Je me suis évidemment posé, et mes collègues médecins, on n'est pas forcément tous d'accord, mais on se pose beaucoup de questions. Moi, mon point de vue, c'est que j'ai quand même connu quelques crises majeures, on va dire, sur le territoire national. Jamais je me suis senti en danger parce que j'avais pas d'arme à ma ceinture. Et inversement, je me suis jamais dit, si j'avais une arme, j'aurais soigné différemment. Et il y a que ça qui m'intéresse.
Et alors, est-ce que donc le gouvernement, les derniers gouvernements, puisque ça avait commencé sous François Hollande, ont beaucoup insisté justement à la suite des attentats sur le fait de sensibiliser la population aux gestes qui sauvent, avec la volonté de former 80% de la population? Vous êtes beaucoup sur cette ligne-là, il faut encourager tout le monde à se former, Mathieu Langlois?
Ah ben évidemment, c'est ce qu'on appelle la résilience collective. Elle passe par d'abord, pas surtout pas créer d'angoisse supplémentaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas enseigner certaines choses, et en particulier alors la vigilance par rapport à une menace, mais aussi surtout les techniques de premier secours qui sont enseignées, que ce soit par les militaires, par les pompiers, par des associatifs qui font ça très bien. Ça participe à la résilience collective.
Général Christian, vous partagez...
Complètement. Hein. C'est un vrai enjeu national hein, que les gens, si jamais il y a une hémorragie, et l'hémorragie, elle n'est pas forcément due à un blessé de guerre. Déjà, si on empêche quelqu'un de saigner, qui saigne d'un membre, on peut lui sauver la vie. Donc, c'est des gestes qui sont importants à prendre pour toute la nation.
Merci Général Christian, merci Mathieu Langlois, médecin au combat, Embedded avec Barkhane. Le grand reportage de cette semaine était signé Nathalie Hernandez. Réalisation Annie Bro. Pour la technique, merci à Jean-Marie Porcher, Clémence Bonfils, Alexandre Martin, Benoît Chapon à Bayeux et Audrey Géguélil à Paris. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.